RCF.
Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission dédiée à la chimie du cerveau. Je suis Amandine Borne, spécialiste en management des compétences et des ressources humaines, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Puel, directrice de STEP, un service de santé au travail pour dirigeants d'entreprise. Ensemble, nous allons explorer la chimie du cerveau. Une conversation qui promet d'être riche, concrète et inspirante pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur l'impact du cerveau dans leur quotidien. Vous écoutez Polychrome pour s'épanouir au travail sur RCF Alsace. Bienvenue dans cette émission.
Polychrome pour s'épanouir au travail, présenté par Amandine Borne sur RCF Alsace.
Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, bonjour Virginie Puel.
Bonjour Amandine.
Merci de répondre présente et d'être avec nous aujourd'hui pour parler de la chimie du cerveau. Alors on vous a déjà entendu cette saison sur le stress chronique et son impact sur la performance. D'ailleurs pour ceux qui ont envie de réécouter l'émission, elle est bien évidemment disponible en podcast. Et pour les auditeurs qui n'ont pas encore eu l'occasion de vous écouter, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, alors je suis Virginie Puel et je suis infirmière de profession. Et puis, j'ai eu une longue carrière dans le milieu du soin, infirmière, cadre de santé, puis j'ai pris la direction de deux établissements de soins durant plus de 11 ans. Et j'ai fait un certain nombre de constats à l'occasion de cette fonction de direction, durant laquelle j'ai subi un stress chronique et puis je me suis parfois sentie bien seule, bien isolée face aux décisions et aux responsabilités que j'avais à prendre. Donc j'ai décidé de m'engager dans cette voie-là et de m'engager dans la prévention en santé dirigée pour les entrepreneurs et les dirigeants en fait, pour qu'ils puissent eux aussi prendre soin d'eux. Et donc aujourd'hui j'œuvre activement à faire de la prévention en santé grâce à STEP, qui est le premier service de santé au travail dédié aux entrepreneurs par la prévention.
Et alors, la chimie du cerveau, c'est quoi ? Parce que moi, je connais la chimie, ce qu'on a pu avoir à l'école, les cours de chimie, physique-chimie. Alors, c'est pas forcément mes cours préférés. Mais alors, la chimie du cerveau, c'est quoi ?
La chimie du cerveau, pour vous donner une image qui parlera à tout le monde, c'est une petite cuisine interne qui est faite de plein de substances qu'on appelle des molécules chimiques et qui se passent dans votre cerveau. Et ces substances spéciales donc sont les molécules ou les neurotransmetteurs, et elles vont avoir un impact majeur sur le cerveau puisqu'elles agissent, notamment les neurotransmetteurs, ils agissent comme des petits facteurs, des petits messagers qui raconte des choses et qui donne surtout des informations multiples à votre cerveau, qui va ensuite pouvoir les répercuter sur votre organisme et qui va de cette manière pouvoir dire qu'il faut lever le bras, ressentir de la douleur ou réagir en situation de stress par exemple.
Donc ça veut dire qu'en fait notre cerveau, il parle à notre corps via les neurotransmetteurs ?
C'est exactement ça en fait, les neurotransmetteurs, si vous voulez, les neurones ont besoin pour communiquer entre eux de s'envoyer des messages, des petits SMS, et finalement les neurotransmetteurs sont ces petits SMS qui permettent à deux neurones, à deux téléphones de discuter entre eux et d'obtenir de l'information. Donc ces neurotransmetteurs, ils sont vraiment essentiels, ils sont utiles pour traverser un espace vide entre deux neurones qui vont les accueillir et qui vont permettre comme ça de véhiculer un message. Et à chaque instant, en fait, il y a une multitude de neurotransmetteurs qui sont véhiculés à nos neurones dans le cerveau.
Donc ça, c'est quand tout se passe bien.
Ça, c'est quand tout se passe bien, effectivement. Des fois, il peut y avoir effectivement des problèmes, des loupés. Il peut y avoir aussi des carences au niveau de ces neurotransmetteurs. Et lorsqu'il y a des carences, eh bien, le message n'est plus assuré de la même manière. Et la transmission du message peut être assurée, mais de façon saccadée, ce qui va avoir des répercussions, effectivement, sur l'organisme et sur la façon dont on va traiter ces informations.
Alors justement, quelles sont ces répercussions ?
Ah, les répercussions, elles peuvent être multiples, mais tout dépend en fait du neurotransmetteur qui est défaillant ou du neurotransmetteur qui est carencé. On peut identifier en fait quatre grandes familles de neurotransmetteurs qui sont la dopamine, l'acétylcholine, le GABA et la sérotonine. Et chacun, lorsqu'il est carencé, va avoir des répercussions différentes en fait sur le fonctionnement.
Donc si je comprends bien, parce que la chimie déjà, j'ai dit en amont que c'était pas le cours,
c'est pas le cours
le
favori.
Plus simple pour moi à retenir. En tout cas là, si je comprends bien, il y a quatre grandes familles de neurotransmetteurs et chaque famille de neurotransmetteurs a des messages spécifiques à apporter, à indiquer au corps.
Exactement. Et non seulement elle a des messages spécifiques à indiquer, à apporter au corps, mais surtout, ces quatre grandes familles permettent d'avoir un fonctionnement très différent. On a tous finalement plus ou moins un neurotransmetteur qui est dominant. Et ce neurotransmetteur dominant va fournir plein d'indications sur la nature de la personne, sur la façon dont elle appréhende le monde, sur la façon dont elle agit et réagit. Et sur la façon dont elle fonctionne dans ses activités quotidiennes. Et donc chaque personne a une nature différente, mais que l'on peut associer à un neurotransmetteur dominant.
Donc finalement, on aurait chacun une cartographie de neurotransmetteurs qui serait différente, c'est-à-dire que on aurait peut-être un neurotransmetteur qui serait plus prédominant qu'un autre ?
C'est exactement ça. Alors, c'est juste, mais il faut quand même mettre un petit bémol dans ce que je dis là. On a tous plus ou moins un neurotransmetteur dominant, mais il existe quand même une catégorie de personnes aussi dans la population qui n'ont pas de neurotransmetteur dominant, qui ont un juste équilibre entre tous les neurotransmetteurs, entre ces quatre neurotransmetteurs, ce qui n'est pas du tout un problème en soi.
Donc, quatre neurotransmetteurs, des messages qui sont envoyés, et en fait, ces neurotransmetteurs, ça fonctionne comment ? Ça marche tout seul ?
Alors ça marche tout seul, mais c'est comme l'idée d'un moteur. Le moteur, vous avez besoin de mettre du carburant pour qu'il puisse fonctionner. Vous avez besoin aussi de le réviser de façon régulière pour qu'il marche de façon optimale. Et puis vous avez besoin aussi de lui apporter un certain nombre d'éléments, un liquide de refroidissement, de l'huile pour le moteur. Donc la chimie du cerveau, c'est exactement la même chose. Il faut non seulement qu'elle soit entretenue, et pour être bien entretenue et pour fonctionner efficacement, il faut qu'elle ait tous les éléments dont elle a besoin pour bien fonctionner. Et ces éléments-là passent bien sûr par l'alimentation, mais par la façon qu'on a de vivre aussi, par la consommation de différentes molécules, et puis par l'entretien qu'on fait de son organisme en ayant une activité physique régulière, par exemple.
Bien sûr, nous sommes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'homme en femme. Mais la fois tu pries ton bagage. Mille fois je prie mon envol. Et chaque meuble se souvient. Dans cette chambre sans berceau, des éclats de vie et tempête, où plus rien ne ressemble à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau, et moi celui de la conquête. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube au clair jusqu'à la fin du jour.
Des professionnels transforment votre quotidien. Vous écoutez Polychrome pour s'épanouir au travail sur RCF Alsace.
On aborde aujourd'hui la question de la chimie du cerveau et pour cela je suis accompagnée de notre invitée Virginie Puel. Alors Virginie, ça a été dur hein, pour moi hein, la première partie. Hein, j'ai dit la chimie, c'était pas le cours qui était le plus simple, mais en tout cas vous avez réussi à bien expliquer ce qu'était la chimie du cerveau avec les neurotransmetteurs. Qu'il y a quatre grandes familles de neurotransmetteurs et qu'on a en général un neurotransmetteur qui est dominant, voire même une petite partie de la population qui est à l'équilibre total. Ok, mais alors Virginie, comment on fait pour identifier notre propre chimie du cerveau? Parce que moi, j'ai pas une loupe hein, pour regarder dans mon cerveau. Est-ce qu'il y a un test? Est-ce qu'il y a des outils qui nous permettent d'identifier notre propre chimie?
Alors effectivement, il y a un test très simple que l'on peut tous réaliser. Alors, ce test s'appelle le test de Braverman. Braverman, c'est un éminent scientifique qui est neuropsychiatre. Et qui a fait beaucoup de travaux de recherche autour justement de la chimie du cerveau. Et cet éminent neuroscientifique, il a mis au point un test qui a une vraie validité scientifique, qui consiste à remplir un questionnaire avec des questions assez simples, des questions très personnelles qui portent sur plein de thématiques concernant votre organisme. Et il s'agit de cocher des cases. Alors, on parle pas du test du magazine Marie Claire. Hein. On parle d'un test qui a une véritable validité scientifique. Et ce test, il permet de trouver tout d'abord quel est le neurotransmetteur dominant chez une personne. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet de révéler s'il y a des carences en neurotransmetteurs. Et donc ça, c'est le premier test que l'on peut faire. Il existe aussi toute une batterie de tests biologiques qui vont porter sur la chimie du cerveau avec des dépistages, des analyses extrêmement fines de la chimie du cerveau. Et là, ces tests-là, bien sûr, se réalisent en laboratoire et c'est des tests tout à fait particuliers. Mais le premier test le plus facile à faire, qui peut être fait par tout le monde, c'est le test de Braverman.
Donc le test de Braverman, je tape sur Google test de Braverman et puis je peux accéder au test ou je dois aller solliciter un professionnel?
Alors faire le test, c'est une bonne chose et vous pouvez le trouver facilement sur internet, ce test-là. Mais pour l'analyser, ce test, il faut quand même avoir le regard d'une professionnelle ou d'un professionnel parce qu'il faut pas faire n'importe quoi. C'est bien beau de passer un test, mais après on en fait quoi? Donc il faut quand même se tourner vers un professionnel qui sera apte à analyser ce test et à dire derrière ce qu'il y a lieu de mettre en œuvre s'il y a des carences qui se sont révélées à l'occasion de ce test.
Quel type de professionnel je peux solliciter pour passer ce test?
Moi, par exemple.
D'accord.
Voilà. Les psychologues également, les neuropsychiatres sont aptes aussi à analyser ce test. Toute personne qui est formée, en fait.
J'allais demander, donc il faut avoir une formation spécifique.
Oui, oui, tout à fait.
Alors, en amont, Virginie, j'ai eu l'honneur, ou peut-être
oui,
l'horreur, on verra en fonction des résultats, de passer ce test. Et effectivement, c'est un test qui est très simple, hein, c'est des questions, il fallait que je coche. Des fois, j'ai eu des hésitations quand même, hein, pas oui, toujours facile de réussir à se positionner, mais en tout cas, j'ai passé le test, c'est rapide.
Oui.
Et en plus, ce qui est rassurant, c'est que vous n'avez pas en fait accès aux réponses individuelles, c'est-à-dire vous ne savez pas exactement ce que j'ai dit.
Non, effectivement, ce test, il est, moi, quand je l'envoie, quand je l'adresse à des personnes, il est adressé sur un logiciel spécifique qui permet de garder les questions, enfin les réponses aux questions cachées. Moi, je n'ai accès qu'au score parce qu'il y a effectivement des questions qui peuvent un petit peu heurter dans le sens où elles sont extrêmement personnelles. Oui, tout à fait. Et voire même intimes, qui touchent à l'intime. Mais moi, j'ai pas accès donc aux réponses. J'ai accès au score. Et finalement, moi, c'est vraiment les scores qui m'intéressent parce que c'est à partir des scores que je vais pouvoir décortiquer.
Bah alors moi aussi, un roulement de tambour d'ailleurs. Quels sont mes résultats, Virginie?
Roulement de tambour, Amandine, pour vous. Tout d'abord, je tiens à vous rassurer, votre test de Braverman n'a pas mis en évidence de carence sévère.
Alléluia!
Alléluia! Alors, il y a peut-être une petite carence modérée, mais
quand
je
même
vais vous donner des explications. Tout d'abord, Amandine, vous avez un profil qui a mis en évidence la présence de deux neurotransmetteurs dominants. Vous avez un profil acétylcholine et un profil GABA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très créative au niveau de votre nature, hein, ouverte aux nouvelles idées, que vous êtes très sociable.
Ça, c'est clair.
Et que vous vous investissez beaucoup pour les autres. Vous réfléchissez vite, Mais ça peut être un défaut parce que vous réfléchissez vite sans toujours tenir compte des autres. Et malgré votre perfectionnisme, vous restez assez souple, mais parfois aussi peut-être un peu impulsive.
Voilà. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Je vois aussi Théo, hein, qui confirme. C'est en description du profil.
Alors, votre nature est également caractérisée par la stabilité, la cohérence et la sociabilité, ainsi que l'altruisme. On peut toujours compter sur vous parce que les problèmes glissent sur vous en toutes circonstances. Et donc, vous êtes de fait très organisé aussi, doué pour tout ce qui est fixer des objectifs, organiser un projet ou une activité, établir un planning, en gros, administrer.
C'est bien, c'est mon travail.
C'est votre travail, c'est exactement ce à quoi j'ai pensé quand j'ai décortiqué votre test. Et tout ça va de pair, bien sûr, aussi avec la ponctualité, avec le sens pratique, l'objectivité, la pondération et aussi la confiance en vous.
Alors, il y a un seul point, c'est la ponctualité. Je ne suis pas totalement ponctuelle, même si j'y travaille. Mais effectivement, sur la description, c'est impressionnant.
Voilà. Donc là, on a parlé de vos neurotransmetteurs dominants, donc l'acétylcholine et le GABA. Le GABA, c'est l'acide aminobutyrique. Donc pour revenir sur votre test, par contre, j'ai relevé une légère carence en GABA. Donc vous auriez pu être carencé dans un neurotransmetteur qui n'est pas dominant chez vous, dopamine ou sérotonine. Mais là, vous avez une légère carence en GABA, qui fait partie des deux neurotransmetteurs dominants chez vous. Donc cette carence, il serait bien quand même de se pencher dessus pour essayer de la lever.
Alors comment on fait pour lever cette carence ?
Alors, comment on fait pour la lever cette carence ? Avant de vous dire comment on fait pour vous lever cette carence, je vais vous dire surtout ce qu'elle induit, cette carence. Est-ce que vous avez tendance à vous sentir parfois en sur-régime ?
Ben, tout le temps.
À avoir du mal à vous poser ?
Oui.
Notamment le soir.
Ah, c'est horrible. Ah, voilà. J'arrive pas à aller me coucher.
Vous avez du mal à vous endormir parfois ?
Ça va.
Ça va. Alors, tous ces troubles, effectivement, qu'on vient d'évoquer, le fait d'être en sur-régime, le fait d'être un petit peu survolté, d'avoir du mal à se poser le soir, c'est typique de la carence en GABA. Clairement, c'est vraiment, ça fait partie des symptômes qui sont liés à cette carence-là. Alors, il faut savoir que pour l'instant, chez vous, cette carence, elle est modérée, mais si on la laisse et qu'on la traite pas, elle pourrait engendrer des symptômes beaucoup plus gênants à long terme et devenir une carence sévère. C'est pour ça que les carences, il faut pas les laisser s'installer. It can be said I'm an early bird. It's 10 o'clock before I say a word. Baby, I can never tell. How do you sleep so well? You keep telling me to live right. To go to bed before the daylight. But then you wake up for the sunrise. You know you don't gotta pretend. Baby, now and then, don't you just wanna wake up? Dark as a lake, smelling like a bonfire, lost in a haze. If you're drunk on life, babe, I think it's great. But while in this world, I think I'll take my whiskey neat. My coffee black and my bed at three. You're too sweet for me. You're too sweet for me. I take my whiskey neat. My coffee black and my bed at three. You're too sweet for me. You're too sweet for me.
Polychrome, pour s'épanouir au travail. RCF Alsace.
On poursuit notre discussion avec Virginie Puel sur la chimie du cerveau. Alors Virginie, vous nous avez parlé de la chimie du cerveau, ce qu'est la chimie avec les quatre grandes familles de neurotransmetteurs. On vient d'aborder le test de Braverman.
Braverman,
c'est un brave homme, effectivement, j'ai oublié un petit R, je suis désolée, pardon. Et donc j'ai passé ce test et vous venez de donner les résultats du test avec deux neurotransmetteurs qui sont principaux, qui sont...
L'acétylcholine et le GABA.
C'est merci parce que j'ai vraiment du mal à retenir. Et on a vu du coup que j'étais carencée sur un des neurotransmetteurs.
C'est ça. Oui, Amandine, vous êtes carencée en GABA. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir corriger cette carence en adoptant des règles diététiques très simples. L'idée étant de favoriser la production de GABA grâce à l'absorption de certains aliments.
Alors, lesquels ? Parce que c'est bien, vous me donnez plein d'informations, mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place ?
Alors, ce que vous allez pouvoir mettre en place, c'est de consommer des aliments à forte teneur en acide glutamique. C'est ce qu'on va aller rechercher.
Pardon ? En traduction normale.
En traduction, vous allez mettre le paquet sur la dégustation d'amandes.
J'aime pas.
Amandine, vous ne pouvez pas aimer les amandes. Donc, si vous aimez pas les amandes, vous pouvez vous tourner vers l'avoine complet. Bon, l'avoine complet, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun, on est d'accord.
Surtout que je ne suis pas un cheval, même si je suis sagittaire.
Il y a aussi le blé complet, mais il y a aussi la banane.
Ah, ça j'aime bien.
Voilà, qui est riche.
Parce que j'aime bien faire des singeries.
En acide glutamique. Vous pouvez également manger du brocoli.
Oh!
Oui, c'est pas très glamour tout
Merci,
ça.
Merci Virginie.
Des épinards.
Ça va me rendre forte, comme Popeye.
Le foie de bœuf.
Le foie, j'aime bien.
Alors, le foie de bœuf, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour justement la sécrétion d'acide glutamique. Donc là, c'est parfait si vous en mangez. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Le flétan. Si vous
c'est
aimez
du poisson.
Le poisson.
Non.
Non, ok.
Je vais avoir un régime alimentaire, ça va être super compliqué.
Les lentilles.
Ça peut passer.
Les noix. Non plus. Les agrumes.
Oui.
Ok. Alors allons-y pour les agrumes, les pommes de terre.
Oui, ça j'adore.
Tout le monde
pâte.
Aime les pommes
oui.
de terre.
D'ailleurs, vous savez comment s'appelle la princesse des patates ?
Non,
Amandine.
Donc les pommes de terre, le riz complet et le son de riz.
Ça, je ne connais pas.
Donc tous ces aliments, en fait, sont des aliments qui vont vous permettre, si vous en consommez, alors vous avez une carence modérée, donc si vous en consommez 2 à 3 fois par semaine, c'est amplement suffisant.
D'accord.
Si vous aviez une carence plus sévère, il y aurait nécessité d'en consommer au moins 6 jours par semaine.
D'accord. Donc ça, c'est au niveau de l'alimentation. Donc ça veut dire intégrer des aliments qui vont me permettre d'enrichir ce neurotransmetteur.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres actions qui peuvent être menées ?
Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que pour les personnes qui ont une nature GABA dominante, comme c'est le cas chez vous, vous avez une nature GABA dominante et acétylcholine, un excès de sucre rapide est vraiment néfaste pour ces personnes-là, parce que ça procure un apaisement provisoire au cerveau avant que le déséquilibre en GABA se manifeste à nouveau.
Les bonbons...
Exactement. Donc, les personnes qui sont carencées en GABA, c'est vrai qu'elles vont avoir une fâcheuse tendance à se tourner vers des produits...
Les viennoiseries...
Très sucré, ce qui va les faire redescendre, en fait, les apaiser un moment, mais c'est vraiment juste mettre un pansement sur quelque chose qui est pas du tout, enfin, qu'il faut pas cacher, quoi.
Donc là, ce que vous nous dites, Virginie, c'est que finalement, quand même, la principale action, ça reste l'alimentation.
Dans le cas d'une carence modérée, la principale action, c'est l'alimentation.
D'accord.
Attention. Quand il y a une carence sévère qui donne lieu à des symptômes particuliers, des symptômes physiques importants qui peuvent aller jusqu'à des pathologies qui s'installent. Là, bien sûr, il y a lieu de consulter un médecin de toute urgence. Il y a lieu, bien sûr, de modifier un petit peu son alimentation, mais c'est amplement pas suffisant. Il va falloir se tourner aussi vers des traitements qui peuvent être des traitements hormonaux et il peut y avoir aussi des traitements type complément alimentaire. Et bien sûr, des traitements qui vont permettre, s'il y a une pathologie qui est établie, des traitements qui vont agir directement sur la pathologie établie.
D'accord, ça veut dire bien évidemment, on ne se base pas que sur le test, il y a aussi des éléments périphériques à prendre en considération.
Absolument, oui, tout à fait.
D'accord. D'autres actions qui peuvent être mises en place ?
Alors, donc comme je vous l'ai dit, la durée de ce régime, oui, alors il faut privilégier les céréales complètes et puis éviter les sucres rapides. Hein. Il faut aussi éviter les farines blanches raffinées et tous les produits qui en renferment. Donc vous avez le droit de manger un bout de pain pour autant, hein, mais se gaver de pain toute la journée, ça va pas être la solution dans tous les cas. La durée de ce régime dépendra bien sûr de l'importance de la carence, donc 3 jours par mois si elle est légère, 3 jours par semaine si elle est modérée et au moins 6 jours par semaine si la carence est importante. Pour vous, la carence est modérée, donc 3 jours par semaine. Et les aliments les plus importants de ce régime sont vraiment les abats, donc le foie de bœuf qu'on a évoqué tout tout à l'heure, les céréales complètes, les légumes et les fruits secs oléagineux. Alors le melon, les oranges et les champignons reishi fonctionnent aussi très bien.
Intéressant. Merci Virginie pour tous ces éléments sur l'alimentation. Je vais pouvoir changer mon alimentation.
Avec plaisir.
Et alors, en conclusion, parmi tout ce qu'on a pu se dire, quel est le point clé à retenir par rapport à la chimie du cerveau ?
Le point clé à retenir, c'est que la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, à un moment donné, je vais aller faire ce test de Braverman ? Eh bien, tout simplement, si je veux être sûre que mon cerveau fonctionne à 100%, il y a des choses qu'il faut aller investiguer. Et parmi ces choses à investiguer, la première des choses à investiguer, c'est la chimie du cerveau. Quand on est chef d'entreprise, quand on est dirigeant, et de façon générale, de toute façon, pour être en forme et avoir un cerveau qui fonctionne vraiment bien, il faut aller investiguer ce champ-là. C'est malheureusement un champ que tout le monde oublie ou dont tout le monde n'a pas conscience. Et pourtant, c'est quelque chose d'essentiel parce que des fois, on se dit, bon sang, je suis fatiguée en permanence et je comprends pas pourquoi, alors que je dors bien, je me lève le matin, je suis déjà au bout de ma vie. Eh ben, tout simplement, il faut peut-être aller investiguer la chimie du cerveau pour aller voir ce qui se passe.
C'était Polychrome pour s'épanouir au travail. Merci à vous toutes et tous d'avoir écouté cette émission consacrée à la chimie du cerveau. Un grand merci à Virginie Puel pour la richesse de ses partages, ses éclairages concrets, son engagement au service de l'épanouissement professionnel. Nous avons exploré ensemble la chimie du cerveau, le test de Braverman et les actions concrètes que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre bien-être au regard de la chimie du cerveau. J'aimerais également remercier Théo Giandoni pour l'assistance technique et la qualité de son accompagnement et la validation d'ailleurs du test tout au long de cette émission. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en discuter avec vos équipes et à poursuivre la réflexion dans vos pratiques professionnelles. Vous le retrouverez en podcast sur notre site internet rcf.fr/Alsace et je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous et de votre cerveau.